question.
La seconde, je reprends le début de la phrase ou je reprends le milieu?
Reprends le début pour que tout le monde plonge là-dedans. Donc on est dans la vie flamme A.
Et quel paragraphe?
Paragraphe 14.
L'âme enveloppée d'une gloire si suave est l'âme qui jouit seulement de la simple union d'amour.
Donc on est au milieu du paragraphe.
Peuvent en quelque façon se comparer la première à ce feu de Dieu dont Isaïe nous dit qu'il se trouve dans Sion, laquelle figure l'Église militante, la seconde à ce four de Dieu qui était à Jérusalem, laquelle signifie vision de paix. L'âme dans cette seconde union peut être assimilée à un four embrasé, donnant lieu à une vision d'autant plus pacifique, plus glorieuse et plus exquise, nous l'avons dit, que la flamme de ce four est plus embrasée que ne l'est le feu ordinaire. L'âme, donc, sentant que cette vive flamme d'amour lui communique une vive abondance de biens, et par le fait, ce divin amour apporte tous les biens avec lui, elle s'écrie « Ô flamme d'amour, vive flamme, qui me blesse si tendrement !» Comme si elle disait « Ô amour embrasé, qui me glorifie délicieusement par tes touches amoureuses !»
Mouvement, pas touche. C'est énervant parce que movimientos, motion, tout ça, ça va ensemble. Hein? Bon.
Selon toute ma capacité et toute la force dont je suis capable. Tu me donnes une intelligence divine selon toute la capacité de mon entendement. Tu me communiques l'amour selon la toute-puissance de ma volonté. Tu combles d'un torrent de délices la substance de mon âme par ton divin contact et ton union substantielle, selon la suprême pureté de mon être et selon toute l'étendue de ma mémoire.
Voilà, mémoire et substance de l'âme, hein, ça c'est tout à fait dans la tradition augustinienne. On a bien ça dans la montée du Carmel, hein. La mémoire qui renvoie au Père, hein. Substance de l'âme aussi, mais pas seulement la mémoire rappel, hein, dans la montée du Carmel, pas seulement la mémoire archive, comme l'archive dans mon ordinateur, hein, fonction de rappel, chez saint Thomas, c'est ça la mémoire. C'est trois fois rien, hein, fonction de rappel. Dans la mémoire, dans la ligne augustinienne, Bernard, Bonaventure, hein, c'est vraiment le fond de l'âme, c'est la capacité de retenir, bien sûr, d'archiver, bien sûr, de rappeler, bien sûr, mais c'est aussi pour l'âme la faculté de posséder, de se posséder soi-même, dans son identité, substantiellement. Hein. C'est le fond de l'âme, la substance. C'est pour ça que ça renvoie au Père, parce que le Père est source de la divinité, hein, chez saint Augustin. Vous voyez. Donc c'est cette ligne-là, très forte, de la tradition augustinienne, où la mémoire a une grande place. On l'a déjà vu en cours sur l'espérance, hein, Saint-Augustin. Oui. D'accord, tu reviens, c'est bon, ça va, ça. Bon, alors, ceux qui ont la vie flamme B, lisons le paragraphe 14 et voyons les différences et les compléments. Vie flamme B, vous l'avez, Cécile? Non, vous l'avez pas, vous. Ah, vous avez la B, vous?
Oui, en fait, c'est...
On a les deux.
Ah oui, c'est vrai, oui, je suis bête, oui. Alors, lisez la B, d'accord.
Donc, c'est 14?
14, toujours 14, oui, 14.
Et dans ce, c'est 16.
14.
Okay. En disant que la flamme la blesse en son sang le plus profond,
oui.
L'âme déclare donc que l'Esprit Saint la blesse selon toute l'étendue de sa substance, de sa force et de sa capacité. Non, elle veuille donner à entendre que cette opération soit substantiellement celle qui a lieu dans la vision béatifique.
Ah, voilà la différence. C'est comme dans le cantique B. C'est la même retouche, le même type de retouche. Par rapport au cantique A, le cantique B met toujours une différence entre la plénitude présente, qui donne l'impression qu'on est au sommet et que ça n'ira pas plus loin, sur la terre. Et dans le cantique B, il montre toujours qu'il y a toujours une différence par rapport à la vision béatifique. Donc il y a toujours un cran, ça c'est l'axe du cantique B, dans la refonte du cantique B, la réorganisation du cantique B. Mais je vois que c'est la même chose dans la vie flamme B, c'est le même type de retouche. C'est pas tout à fait, c'est pas intégralement, c'est pas comme dans la vision béatifique. On est au seuil, mais c'est pas tout à fait comme, ça va? Voilà, c'est deux points de vue différents. Le premier jet de Jean de la Croix, c'est pour dire que vraiment, bon, c'est les sommets, c'est la gloire. Hein, c'est la gloire. Et après, il dit, ah oui, mais c'est la gloire, pas tout à fait. Il y a quand même la gloire de la gloire. Ça va, hein? Voilà, je crois que c'est pas voulu continuer de lire, je ne sais pas s'il y a d'autres différences. Oui.
Donc, je continue.
Oui.
La vision béatifique de Dieu en notre vie. Mm-hmm. Une âme a beau attendre atteindre dans cette vie mortelle un état aussi élevé que celui dont nous parlons.
Oui, le haut état, un état élevé. Ça, c'est caractéristique de Jean de la Croix comme expression. L'âme atteint un haut état. Hein?
Elle n'atteint ni ne peut atteindre l'état parfait de ma gloire, bien qu'il soit frais de dire que Dieu peut lui apporter, comme en passant, une faveur qui s'en approche.
Ah oui, d'accord.
Mais elle parle ainsi pour donner à entendre l'extraordinaire abondance de délices et de gloire qu'elle expérimente en cette communication de l'Esprit-Saint.
Elle expérimente en espagnol, c'est siente, elle sent. C'est le sentir spirituel. Hein?
Ces délices sont d'autant plus abondantes et plus exquises.
Oh, exquises, tierno, tendre. La tendresse de l'Esprit Saint. Exquise, ben oui, c'est Mère Marie du Saint-Sacrement, parce que tendre, ça ne devait pas aller dans un Carmel du début du XXe siècle.
Que l'âme est plus puissamment et plus substantiellement transformée et concentrée en Dieu.
Oui, il dit en espagnol « reconcentrada », hein, « reconcentrée », « archi-concentrée en Dieu ». Donc, vous voyez, il y a le centre de l'âme, l'homme se concentre en Dieu, il trouve son centre en Dieu par l'amour, hein, et par cercle concentrique, hein, qui sont les degrés d'amour, il dit. Hein. Donc, on s'approfondit, on se concentre en Dieu, on trouve son centre en Dieu, bien.
Ceci étant ce qui se peut atteindre de plus élevé en cette vie, sans être répétitif, aussi parfait qu'en autre, l'âme n'appelle le centre le plus profond. Peut-être, cependant, l'âme peut-elle avoir l'habitude de la charité.
Alors, c'est l'habitus, hein, s'il vous plaît. L'habitus, l'habitus de la charité, oui.
Aussi parfaitement que dans notre vie, mais non l'opération et le fruit de la charité, bien qu'il soit vrai de dire que le fruit et l'opération de l'amour croissent à tel point en cet état, qu'il y a grande ressemblance avec ceux qui sont dans notre vie. L'âme, en ayant le sentiment, sont nartis, donc à prononcer ce que non n'ose avancer que de notre vie, et elle est dit mon centre le plus profond.
Bon, alors vous voyez ce jeu, hein, c'est pas tout à fait comme dans l'autre vie. Et on trouve cette question de la charité croit à l'infini. Hein. La charité de la terre est la même que celle du ciel. Ce degré de charité dans lequel nous serons constitués et établis à la mort nous propulsera à un degré de vision du ciel. Hein, ça c'est clair. Donc c'est la même. Et cependant, elle peut croître. Et là, il dit bien les fruits. Voilà, mystère. Cette charité qui est déjà à son état de la gloire et qui en même temps peut croître. Et oui. Bien. Alors, ben, vous voyez, on n'a ni Sion, ni rien du tout, tout ça, ni l'église militante, oui. Pour toi, il l'a remis dans le 16 après. Toi, tu as relu ça après dans le 16. Donc, ça veut dire qu'il a ajouté des choses. Les paragraphes ne sont pas les mêmes. C'est compliqué tout ça. Hein?
Oui, c'est juste.
Pour les facultés, tout ça, il met aussi les facultés à cet endroit-là, pour chacune. Le four, oui, de fait, ouais. Oui. Ah oui, de fait, oui. Donc, alors maintenant, moi, je n'ai jamais fait ce travail. Il y en a qui l'ont fait pour le cantique B et le cantique A, de voir exactement ce qui est en synode, mais je n'ai jamais fait pour la vie flamme. J'avoue que c'est trop fatigant. Donc, voilà. Ça ne fait rien. Bon, d'accord. Alors, avançons dans notre étude, s'il vous plaît. Je vais passer sur les paragraphes 15 à 17, l'enveloppement des trois personnes divines, etc. On va retrouver ça dans la strophe 2. Ce qui m'intéresse maintenant de creuser, c'est le point 3. Mémorial des souffrances passées, la même flamme, purifiante puis transformante. Ce sont les paragraphes... Alors,
je me trompe pas.
Là, je suis dans la B, c'est 18 à 26. Ça, c'est la B à tout coup. Alors là, A. Là, A, c'est 16. Oui, vous voyez, c'est pas pareil. Il y a un décalage, en effet. Oui, oui, ça. Donc je vois que comme les caractères sont plus importants dans la B, dans mon audition, je fonctionne plus avec la B que la A. D'accord ? Donc si vous voulez prendre la B, on va fonctionner ensemble. Ça peut aller ? Voilà. Alors, voilà un aspect assez intéressant. Nous avons vraiment cet axe de la temporalité avec un mémorial des souffrances passées. Là, nous voyons reparaître le docteur des nuits. Et alors là, c'est assez intéressant parce que dans ces paragraphes 18 à 26, donc de la vie flamme B, alors vous avez un petit résumé, un petit condensé de la nuit obscure, encore plus tragique, plus dramatique, parce que c'est encore plus condensé que dans le livre lui-même de la nuit, où ça s'étale plus. Ah oui, quand vous lisez ça là, c'est absolument, c'est affreux, ces paragraphes sur la nuit. C'est une intensité avec des contrastes, une violence, une dramatisation de la nuit. Il fait comprendre que c'est le purgatoire, carrément, rien de plus. Enfin, ni plus ni moins, c'est le purgatoire. C'est, au fond, l'eschatologie anticipée. Le purgatoire est là, on vit le purgatoire, il faut l'accepter, c'est le purgatoire. Bon, voilà. C'est la flamme de l'amour qui nous purifie au purgatoire. Voilà. Alors, ce qui nous montre, avec beaucoup de réalisme, que c'est une histoire vécue. Donc, il nous montre que cette histoire d'amour, bon, c'est très beau actuellement, dans le présent, l'esprit qui fait des fêtes dans notre cœur, dans notre vie, mais que ça n'a pas toujours été le cas, que ça n'a pas été une sinécure. Et qu'avant, c'est la flamme qui fait sortir toute l'humidité, qui la fait cracher de la bûche. Donc c'est quand même toutes les scories, tout ce qui est contraire. Vous verrez au paragraphe 25 qu'il cite le livre de la nuit. Il se cite. Ça m'amusait toujours dans Jean-Paul II, quand à la fin de sa vie, il citait toujours des textes antérieurs. Il se citait beaucoup. Ben, c'est un peu ça. Bon, voilà. Alors, vous verrez au paragraphe 19 et à 22, il y a un combat entre Dieu et l'âme. La flamme révèle à l'âme ses ténèbres, au paragraphe 22. Elle manifeste le péché, les scories, fait cracher la bûche. Au fond, c'est le jugement du péché, et c'est ce que nous trouvons dans l'évangile selon saint Jean à propos de l'esprit, l'esprit qui dit la vérité et qui dénonce le péché du monde, et qui fait connaître la vérité en matière de péché et de jugement, dit le texte de l'Écriture, au chapitre 16 de saint Jean. Et c'est là tout à fait ça, c'est la mise en vérité. Ça correspond tout à fait aux sixièmes demeures de sainte Thérèse d'Avila, où il y a une mise en vérité de la personne humaine, au chapitre, je crois que c'est 7, des sixièmes demeures. Et elle dit que c'est inévitable, et il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Donc, il y a un peu une mise des compteurs à zéro. On dit ce qui s'est passé, comment c'était. Ce combat, ce contraste, conduit l'âme à l'abandon, à un oui à la grâce, à vouloir ce que Dieu veut et par le chemin qu'il veut. C'est ça la nuit. C'est vouloir ce que Dieu veut et par le chemin qu'il veut, et pas ce que je veux et par mes chemins. Ça, c'est la nuit passive. Donc là, il y a aussi Job, les lamentations de Jérémie. Ce sont toutes les étroitesses du cœur qui cèdent, 1.23, les ténèbres de l'intelligence qui sont rejetées, 1.22, la pauvreté de l'âme dans son fond et sa substance qui est soulignée, mise à jour. Et saint Jean de la Croix dit qu'il y a peu d'âmes qui veulent vivre ça. Paragraphe 24, c'est pas de la tarte, c'est pas que c'est un purgatoire, paragraphe 24, c'est sûr. Et oui, forcément. Eschatologie anticipée, voilà, le purgatoire est là. Bon. Alors écoutez, on ne va pas lire ces choses tristes de l'âme, comme dit saint Jean de la Croix dans la nuit obscure. Laissons là, dit-il à un moment, ces choses tristes de l'âme. Et parlons des fruits de la nuit. C'est ça. Alors maintenant, on va se mettre dans la mort d'amour. C'est quand même pas mal, ça. Donc nous sommes au seuil de la gloire. Paragraphe 4 de mon plan. Ça va ? Même dans le seuil, j'avais gardé le numéro de page. Page 937 dans le seuil. Ceux qui sont les tenants du seuil. Page 937. Au seuil de la gloire. Paragraphe 27 à 36 dans la vie flamme B. Je trouve qu'on tirerait les conséquences de ce que saint Jean de la Croix a écrit là-dessus sur la mort d'amour, par exemple pour la pastorale des mourants et tout ça, ce serait intéressant, ça pourrait avoir des applications intéressantes, positives, quoi. Au lieu de faire pastorale qui est quasiment inexistante, parce que les gens ils attendent d'être morts pour la faire. Donc. C'est vrai, c'est bien connu, les aumôniers d'hôpitaux le disent. Les gens attendent que le mort soit mort pour amener le prêtre, parce que parce qu'avant on a peur que ça fasse mourir. Donc voilà. C'est vrai, hein, c'est un gros problème dans la pastorale. Hein. Pastorale des mourants, des agonisants et tout ça. Il y a quelque chose à faire, hein, pour que ce soit le grand acte de la liberté, quand même. Le grand acte de la vie, quand même. C'est quelque chose. Combien maintenant, justement, à cause des analgésiques, mais pas seulement ça, la morphine, tout ça, et puis toutes ces questions de la pseudo-mort digne, les gens ne veulent pas vivre et assumer leur mort. C'est vrai, c'est quelque chose. Hein. Et là, c'est vraiment la mort digne, cette mort d'amour. Il y a quelque chose à creuser et à utiliser, il me semble, là-dedans. Bon, pas facile tout ça. Alors là, on va lire quelques textes. On va lire. Oui, 1.27. 1.27. Alors, avez-vous ça? B.1.27. Achève si tu veux. Maintenant que tu n'es plus revêche, méchante, amère. La flamme était amère. Mais c'est la même flamme qui continue maintenant, hein, qui glorifie et qui fête dans l'âme, qui fait des fêtes dans l'âme, qui maintenant va achever. C'est la même. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant sur un plan théologique et anthropologique. Qu'est-ce qui fait l'union, l'unité entre notre passé, notre présent et notre avenir? Pour Jean de la Croix, oui, c'est la mémoire, mais c'est l'esprit. C'est cette flamme de l'esprit qui tisse le lien entre notre passé, un passé pas glorieux, un présent de plénitude et un avenir glorieux. Qui est-ce qui fait ce lien? Pour Jean, c'est cette flamme de l'esprit. Avant, elle était amère, maintenant, elle célèbre des fêtes, hein, et ensuite, elle va achever et faire passer à Dieu. C'est la flamme de l'esprit, et je trouve que c'est assez intéressant, ça, comme perception. Hein. Comme déduction. Hein. Au fond, c'est l'esprit qui fait l'unité de notre histoire personnelle dans notre mémoire. Hein. Et oui. Au fond, c'est pour ça que c'est une flamme amie, que cette flamme de l'esprit. C'est pour ça qu'il se joint à notre personne, mais il se joint aussi à notre histoire. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là. Hein. Et au fond, ça reflète une propriété personnelle de l'esprit dans la Trinité. On va parler de la théologie des appropriations dans la deuxième strophe. Et oui, l'Esprit Saint est le lien du Père et du Fils. Nudum, vous rappelez la théologie de Saint Augustin que je vous ai mentionnée hier, dans le De Trinitate d'Augustin. Eh bien, il est aussi ce lien, ce nœud de notre temporalité, hein, des étapes de notre vie. Et je trouve que ça, c'est très, très riche et très beau comme perception de Jean de la Croix. Bien. Vous voyez, ce n'est pas seulement, j'allais dire, de la psychologie spirituelle, c'est aussi de la théologie. Hein, voilà. Alors, voyons le paragraphe 27, si vous voulez bien. Achève si tu veux.
Je ne sais pas, c'est le seuil.
Ah, allez-y, on va voir ce que dit le seuil. Maintenant qu'on a tâté à toutes les traductions. Ah bon, allez-y, on va voir. On ne sait pas laquelle c'est, si c'est la B ou la A. Vous pensez que c'est la B, vous, hein? Bon, on va voir. Je vous suis de près, là, dans le texte espagnol.
Voici l'explication de ces paroles. Achevez donc de consommer parfaitement.
Alors là, c'est en vous, dans le seuil, c'est en vous. Hein? Bon, en espagnol, c'est tu, hein? Il n'y a pas de problème. Bon.
Achevez donc de consommer parfaitement avec moi le mariage spirituel et de me donner votre vision béatifique. Car c'est là l'union que l'âme demande ici-bas.
Oui, donc vous êtes bien dans le B, la strophe B.
Sans doute, dans cet état si élevé, elle est d'autant plus soumise et heureuse qu'elle est plus transformée en amour.
Soumise, c'est pas tout à fait ça, c'est conforme, contente, conforme à la volonté de Dieu, oui, conforme, oui. Accordée, si vous voulez. Hein?
Elle ne veut rien et ne désire rien pour elle-même. Mais elle rapporte tout à Dieu.
Et oui, tout pour toi. Hein. Il y a les paroles de lumière et d'amour qui disent ça. Tout pour toi et rien pour moi. C'est ça l'amour pour Saint Jean de la Croix. Tout pour toi, rien pour moi.
Car
la charité, dit saint Paul, ne recherche point son intérêt.
Eh oui. La charité ne recherche pas les biens pour elle-même. Elle n'est pas intéressée. C'est 1 Corinthiens 13. Peut-être, moi j'ai une erreur là. 13:5. Vous avez ça? C'est bien?
13:5.
Elle ne cherche pas son intérêt. Et oui, c'est une des caractéristiques de la charité. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne veut pas pour elle-même les choses. Les biens, les choses. Elle ne veut pas pour elle-même les choses. Hein? C'est la façon dont il interprète 1 Corinthiens 13:5. Mais c'est quand même une caractéristique essentielle de la charité. C'est au cœur de cet éloge de la charité dans saint Paul, au chapitre 13. Hein? La charité ne cherche pas pour soi, elle ne veut pas pour soi. Elle ne cherche pas ce qui l'intéresse, les choses, mais pour son bien-aimé. Hein? Vous voyez ?
Mais celui de l'aimé. Néanmoins, comme elle vit encore d'espérance,
oui,
et qu'elle ne peut manquer de sentir quelque vide,
oui,
elle se laisse aller à des gémissements,
oui,
qui sont suaves sans doute et pleins de douceur,
oui,
mais qui en même temps sont d'autant plus expressifs qu'elle est encore plus loin de posséder parfaitement l'adoption.
Oh non, 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 non. Bien qu'il soit suave et délicieux, oui, pour autant qu'il lui manque, elle n'est, c'est un peu exagéré quoi, dans votre traduction, hein. Elle n'est pas parvenue à la possession achevée de l'adoption des enfants de Dieu. On est tout à fait dans le registre de notre filiation. Hein. Nous tendons vers cette adoption parfaite des enfants de Dieu, Romains 8, hein, d'accord, et la création avec nous. Hein. Donc c'est ça que vise la croix. Donc il y a encore une espérance, un gémissement, qu'il y a aussi dans Romains 8. Hein. Et l'espérance existe quand il n'y a pas la possession. Jean de la Croix, c'est très clair, Montée du Carmel. Hein. Quand on possède, il n'y a plus d'espérance. Donc il y a forcément un vide, une non-possession pour espérer. Ça va ? Bien. Vous pouvez reprendre là. Hein. J'ai critiqué, mais vous pouvez reprendre.
C'est alors qu'elle sera consommée en gloire et que tous ses désirs seront apaisés.
Oui.
Quelque intime.
Tout ce désir, tout son appétit, son désir, c'est au singulier, hein, parce que c'est un peu unifié hein, dans l'âme. Hein, sera apaisé, satisfait. C'est la phrase augustinienne. Hein. Ici, en espagnol, c'est quietara. Hein. Donc, c'est le cœur inquiet qui trouve sa quiétude, son apaisement, hein, sa satisfaction.
Quelque intime que soit son union avec Dieu sur la terre,
oui,
elle ne sera jamais rassasiée,
oui,
et ne trouvera point le repos tant qu'elle ne contemplera pas sa gloire.
Oui.
Cela est d'autant plus vrai qu'elle en a déjà un avant-goût plein de suavité dans l'état où elle était le goût.
Tu parles plein de suavité. Elle en a déjà le goût, sabor, mais ça c'est déjà le don de sagesse et qui goûte. I golosina, il n'y a pas de suavité, c'est la friandise. La golosina, c'est les friandises en espagnol. Hein? Donc, Dieu nous a friandes. Enfin, déjà, nous avons des friandises, nous avons des, comme des arts. Hein, d'accord? Voilà. Bon. Vous pouvez reprendre, ne soyez pas découragés.
Si Dieu ne soutenait sa nature, comme oui, il le fit pour Moïse en le plaçant dans le creux du rocher,
oui,
afin qu'il pût voir sa gloire sans mourir,
oui, Exode 33, oui,
elle succomberait à chaque atteinte de ses flammes divines. Car sa partie inférieure est incapable d'endurer un feu de gloire si intense et si élevé. Voilà pourquoi ce désir et le vœu qu'il exprime ne cause ici aucune peine. Elle ne peut d'ailleurs en éprouver à cet état.
Oui, oui, de peine.
Peut, oui, en cet état, elle ne, oui. Mm-hmm. Son désir est suave et plein de délices. Elle ne demande qu'à soumettre son esprit et ses sens. Mm-hmm. Voilà pourquoi elle dit ce vers, si vous voulez, car la volonté et ses tendances ne font tellement qu'un avec Dieu, qu'elle met sa gloire à accomplir ce que Dieu veut.
Bon, conformité de volonté, donc ça c'est parfait, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas tendance au pluriel, c'est appétit au singulier, donc ce serait désir, je pense, qui est son désir. Voilà. Bien. Donc, oui, on va lire encore un petit peu après, on va voir comment c'est traduit là.
Les reflets de gloire et d'amour qu'elle entrevoit dans ses touches divines, mm-hmm, et qui sont retenus à sa porte.
Ah, voilà.
Oui. Parce que le seuil en est trop étroit,
ah,
sont de telle sorte qu'elle montrerait plutôt peu d'amour si elle ne demandait pas cette perfection et ce complément de l'amour.
Voilà. Alors, en fait, la porte étroite de sa maison terrestre, il y a en espagnol, hein, à cause de l'étroitesse de la maison terrestre. La maison terrestre, c'est le fait qu'on soit un corps et une âme, composé d'un corps et une âme. Ça, c'est la maison terrestre. Hein. Donc, ça, c'est trop étroit et on ne peut pas supporter les assauts de cette flamme glorifiante. Mais en même temps, l'âme le désire parce que c'est sa béatitude, c'est sa plénitude. C'est ce qui va la combler. Donc il faut que la flamme agisse, la prenne d'assaut et l'élargisse en même temps. Et c'est ça. Et de fait, Dieu agit, intervient en nous et élargit. Saint-Thérèse le dit, il dilate, c'est clair. Voilà. Donc la flamme est à la porte. Lisez encore un petit peu après.
Il y a plus. L'âme voit que dans cette force pleine de délices et cette communication de l'époux, le Saint-Esprit l'excite et l'appelle à cette gloire immense.
Non, l'excite, non, il ne faut pas exagérer. Provocando y combinando, provocando, la provoque, ça c'est vrai, mais... Oui, mais dedans il y a le mot vocare. Donc provoque, ça appelle, quoi. Hein? Bon, et l'invite... Provocando y convidando, oui. Donc, l'esprit invite, aspire, vous voyez, c'est ça qui est assez... Donc, il y a l'âme de son côté qui désire cette plénitude, et puis l'esprit qui aspire dans la Trinité. Hein? Voilà.
Il la lui propose, en effet, et prend des moyens merveilleux pour la lui mettre sous les yeux, et se sert des sentiments les plus suaves pour suggérer ses paroles à l'épouse au livre des Cantiques. Elle les rapporte elle-même en ajoutant « Considérez ce que me dit l'époux, levez-vous, pressez-vous, ma bien-aimée, ma colombe, ma toute belle, et venez, car l'hiver est désormais passé. »
L'hiver des purifications, hein.
Les pluies ont cessé et ont disparu bien loin. Les fleurs apparaissent déjà sur notre terre. C'est le temps d'émonder la vigne. La voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Le figuier commence à produire ses fruits. Les vignes en fleurs ont répandu leur parfum. Levez-vous, ma bien-aimée, ma belle. Venez, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans le creux de la muraille. Montrez-moi votre visage plein de douceur et que votre voix se fasse entendre à mes oreilles parce que votre voix est douce et que votre visage est beau. L'âme perçoit toutes ces choses, elle comprend toutes ces paroles d'une manière très claire, dans ce sens élevé de gloire, dans ce sens élevé de gloire que l'Esprit Saint lui révèle. Ce sont des touches de flamme pleines de tendresse et de suavité qui lui expriment le désir de la faire entrer dans cette gloire. Voilà pourquoi, stimulée par de telles invitations, elle répond en ces termes « Achevez donc, si vous le voulez bien. » Par ces paroles, elle adresse à l'époux deux suppliques qu'il nous a enseignées dans l'Évangile, c'est-à-dire « Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. » C'est comme si elle disait « Achevez de me donner ce royaume, si vous le voulez. » C'est-à-dire « Si telle est votre volonté. » Et pour qu'il en soit ainsi, déchirez la toile qui s'oppose à notre douce rencontre.
Voilà. C'est très beau cette réciprocité de l'amour. C'est l'Esprit Saint qui finalement suggère les mots à l'âme par cette aspiration qu'il provoque en elle. Donc, nous gardons de ces textes la plénitude, mais une plénitude qui n'est pas une totale possession, qui garde un caractère d'espérance, espérance d'être concentré dans notre être filial, mais aussi qui nous montre vraiment les deux grands protagonistes de la vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint et l'âme, c'est clair. « qui nous montre comment l'âme entre dans la volonté de Dieu et se laisse convoquer, elle est convoquée hein, par l'Esprit. Il y a déjà là la plénitude et un pas encore que l'Esprit fait entrevoir. Alors nous allons voir ensuite les paragraphes qui viennent, ces rencontres qui sont, comme je vous l'ai dit, non pas des choses très suaves et très douces, mais plutôt des assauts, le choc des lances dans le combat pour rompre la toile. Alors, il me semble que dans cette mort d'amour, il y a un axe qu'il faut bien tenir. C'est les paragraphes 30 et 31, ou la page 936-937 dans le seuil. Comment dire ? Ce qui importe à Saint Jean de la Croix, ce n'est pas tant les conditions physiques, psychologiques de cette mort, hein, c'est plutôt la cause. Ces âmes sont portées par l'amour qui prépare et réalise le contact. Donc c'est sur le plan théologal. Cette mort d'amour. L'amour prépare, réalise le contact. Les fleuves entrent dans la mer. La mort est préparée dans une trajectoire, un élan d'amour. Ça correspond tout à fait à Philippiens 1:23. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Donc la croix dit que ces âmes qui sont dans cet élan de l'amour théologal, eh bien Dieu les emporte avant. Avant la mort normale, quoi. Et de fait, pensez, Saint Jean de la Croix ne le dit pas, mais Pilate est étonné que Jésus soit déjà mort sur la croix. Il est étonné.
Oui. Il fait ce rapprochement.
Oui, je trouve ça intéressant. Hein, ouais. Donc l'amour, voilà. Donc Dieu emporte, c'est paragraphe 34, Dieu emporte avant les âmes qui l'ont aimé. L'amour fait qu'on se précipite au devant et que l'Esprit Saint se précipite. Donc c'est une mort préparée par l'amour, c'est une mort précipitée par l'amour, hein, et c'est une mort d'amour. Donc peu importe qu'il y ait des transports ou pas de transports, que ce soit suave ou pas suave, que ce soit une dormition ou pas une dormition, qu'il y ait de la joie ou pas de joie, c'est pas ça. Pour Saint Jean de la Croix, ce qui importe, c'est l'amour. Donc ce qui nous donne, c'est le versant théologal de cette mort d'amour. Et j'allais dire, c'est ça que Thérèse essayait de faire comprendre à ses sœurs. Oui. Donc elle a vécu cette mort d'amour telle que Saint Jean de la Croix l'a décrite, mais en profondeur, à la profondeur théologale que lui décrivait. Et tout le reste, c'est accessoire. Ça peut se passer d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça vaudrait le coup qu'on lise 1.35, ben oui on peut, 1.35. Alors vous avez 1.34, donc c'est pour cela que c'est une grande affaire, négocio, pour l'âme de s'exercer en cette vie, d'exercer en cette vie les actes d'amour, car se consumant brièvement, rapidement, pour que se consumant brièvement, elle ne s'arrête pas trop, ici ou là, sans voir Dieu. Donc l'amour consume et entraîne pas, ça traîne pas, et on meurt. Et Thérèse meurt à 24 ans. Peu importe que ce soit la tuberculose ou autre chose, elle meurt d'amour à 24 ans. Et elle a accompli sa course de géant. Terminé. Vous voyez ça ? Bon. Alors, voyons 35. Ah, là, on a... Et là, c'est portugais, espagnol, portugais. Et toi ? Ah, la meilleure traduction, lisons ça. Voilà, le sommet des traductions. Du XXe siècle. Paragraphe 35.
Voyons maintenant pour quelle autre raison l'âme préfère appeler rencontre cet envahissement intérieur de l'esprit. L'âme ressent un désir infini de voir sa vie s'achever pour être en Dieu, mais cela ne se produit pas encore, car elle n'a pas encore atteint toute sa perfection. Elle se rend compte que pour l'amener à son achèvement et l'emporter hors de la chair, Dieu produit en elle ces invasions divines et glorieuses qui sont comme des rencontres. Comme elles ont pour but de la purifier et de la tirer de la chair, ce sont véritablement des rencontres par lesquelles Dieu pénètre sans cesse la substance de l'âme en la divinisant de plus en plus.
Divinisant, hein, théologie de la divinisation. Hein, oui. Saint Jean de la Croix est très clair là. Hein. Père grec, hein.
Ce en quoi il absorbe l'âme au-delà de toute manière d'être, jusqu'à une manière d'être divine. Cela se produit parce que Dieu l'a rencontré et l'a transpercé fortement par l'action de l'Esprit-Saint, dont les interventions sont impétueuses lorsqu'elles sont pleines d'ardeur, comme c'est le cas en cette rencontre.
Vous voyez, hein, il s'agit d'assaut, hein, ce n'est pas des trucs suaves et maniérés, et, hein, tout ça, hein, c'est vraiment des assauts.
L'âme dit que cette rencontre est douce parce qu'elle y goûte fortement Dieu. Ce n'est pas que beaucoup d'autres touches et d'autres rencontres qui lui arrivent alors ne soient pas douces, mais elle dit cela à cause de l'excellence de cette rencontre par rapport à toutes les autres. En effet, Dieu la lui accorde afin de la détacher du corps et de la glorifier rapidement. Cela lui donne des ailes pour dire « déchire la toile ».
36, résumons, ça peut nous intéresser.
Pour résumer tout ce couplet, l'âme pourrait dire « Ô flamme de l'Esprit-Saint qui transperce si intimement et si tendrement la substance de mon âme et la brûle de ta glorieuse ardeur, tu me montres maintenant avec bienveillance ton désir de te donner à moi en vie éternelle. Jusqu'à présent, mes prières ne parvenaient pas jusqu'à toi, alors que, avec d'ardents désirs et les peines de l'amour dans lesquelles souffraient en moi le sens et l'esprit, à cause de ma grande faiblesse, de ma grande impureté et du peu de force de mon amour, je te demandais de me délivrer et de me prendre avec toi, car mon âme te désirait d'un grand désir, et l'amour impatient me laissait insatisfaite de la condition dans laquelle tu voulais que je vive encore. Mes élans d'amour n'étaient pas suffisants, car ils n'avaient pas la qualité nécessaire pour obtenir ce que je désirais. Maintenant, je suis si affermi en amour que non seulement mes sens et mon esprit ne défaillent plus en toi, mais encore, fortifié par toi, mon cœur et ma chair se réjouissent dans le Dieu vivant, avec une grande conformité entre nous. Ce que tu veux que je demande, je le demande. Ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas. Et il ne me viendrait même pas à l'esprit de le vouloir.
Et je ne le peux pas, ni à un puedo. Hein? D'accord? Vous voyez, là, c'est la prière toujours exaucée. Prière qui est faite dans l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint.
C'est, je ne le peux pas.
Ni, no quiero ni a un puedo. Ah, ce que tu, lo que no quiero, ce que tu ne veux pas, je ne le veux pas. Et je ne le peux pas même. Et il ne passe pas par là, penser de le vouloir. Ah, ah, elle n'est pas si excellente, d'accord, la traduction. Bon.
Puisqu'à tes yeux, mes demandes ont désormais plus de valeur et de prix, car elles viennent de toi, tu me pousses à les exprimer.
Oui, tu m'y meus, hein, c'est la motion encore. Hein. Tu me mueves a ellas, c'est la motion d'esprit.
Car tu entends et estimes mes supplications, mon sort dépend de ton visage, et dans la savoureuse joie de l'Esprit-Saint, je t'en prie donc, déchire la mince toile de cette vie et ne la laisse pas aller jusqu'à ce que l'âge et les années l'interrompent naturellement, afin que je puisse t'aimer dès maintenant et toujours avec la plénitude et la complète satisfaction du désir de mon âme.
Bien. Donc voilà, l'âme, dans la force de l'Esprit-Saint, peut anticiper l'heure. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça ? L'heure de la mort, de la rencontre.
À l'amour. L'heure de la revenue.
Oui.
Cana.
Cana. Eh oui. Parce que Cana, bon, c'est un texte qui fascine Jean de la Croix, il le mentionne dans le Cantique spirituel. Il dit que c'est la prière par excellence, celle de la Vierge. C'est la prière exaucée parce qu'elle n'a pas demandé ce qu'il fallait que Dieu fasse. Enfin, elle n'a pas cherché à faire penser à Dieu qu'il fallait qu'il fasse telle chose. Elle a dit le besoin. Voilà. Puis elle a fait confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. Hein? Donc c'est cette prière qui a forcé l'heure de Jésus, enfin qui l'a fait anticiper d'une certaine façon. Il y a quelque chose de semblable ici, hein, de cette âme investie par l'esprit qui fait anticiper l'heure sur l'âge et sur les années, etc. Hein, l'heure de la rencontre. Voilà, bah écoutez, maintenant vous avez pour demain hein, des axes pour la strophe 2 que nous étudierons tout bonnement. Demain, théologie d'appropriation, tout ça, hein. C'est pas... Hey, hey. En fait, hein.